Notre vie en église au rythme de l'année liturgique. Réalisé avec Jean-Marie Dujardin et Armand Gall. Chers amis, nous retrouvons Jean-Marie Dujardin, laïc dominicain à Lille. Et aujourd'hui, il nous aide à donner sens au temps de l'Épiphanie. Bonjour Jean-Marie Dujardin.
Bonjour. Bonjour aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent.
Et permettez-moi de vous souhaiter tout d'abord une belle et heureuse année à vous et à vos proches.
Merci beaucoup. Merci bien. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Épiphanie. En cette période de réjouissance de Noël, l'Église nous fait célébrer des événements fondateurs et mystérieux qu'elle qualifie d'épiphanie, tels que la visite des mages à la crèche et le baptême de Jésus. Le mot « épiphanie » signifie « manifestation ». Dieu se manifeste pour instruire les hommes de ce que Jésus est son Fils incarné en leur chair, au milieu d'eux. La visite des mages à la crèche, que nous célébrons cette année le dimanche 8 janvier, constitue la première épiphanie et concerne l'enfance de Jésus. La deuxième se rapporte, ainsi que dit précédemment, à son baptême, alors qu'il commence sa vie publique. Elle constitue une solennité que notre calendrier liturgique place cette année à la date du 9 janvier. Dans les deux cas, il nous est donné à contempler deux signes semblables, mystérieux, que Dieu accomplit pour nous révéler le Fils, notre Sauveur. Avec les mages, il y a une étoile. Alors que lors du baptême de Jésus, saint Matthieu nous rapporte que l'Esprit Saint descend sur Jésus sous la forme d'une colombe, tandis qu'une voix venue de la nuée se fait entendre en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. » Mais faisons un petit détour, si vous le voulez bien. Avant de revenir à la fête de la première épiphanie du 8 janvier, objet principal de ce propos, pour évoquer un autre fait mystérieux, de caractère semblable, mais plus privé, dirais-je, puisqu'il n'a pour témoin que les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, que Jésus a emmenés avec lui sur la montagne, où il est devant eux, transfiguré, éblouissant de lumière, accompagné de Moïse et Élie, avec qui il converse. Et c'est alors qu'une voix se fait entendre, comme lors du baptême de Jésus. Une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Observons que le Tout-Puissant, comme il l'avait fait avec Moïse lors de l'épisode du buisson ardent, se manifeste de façon mystérieuse, étonnante, qui nous dépasse, mais qui n'en est pas moins concrète, de façon à toucher l'homme, non seulement dans son cœur, mais aussi au niveau de ses sens, c'est-à-dire de ses facultés de réception aux faits qui lui sont extérieurs. Dieu veut susciter notre foi. Il vient pour cela au-devant de nous, pour nous instruire et nous guider. À souligner tout de même que, dans le cas de la transfiguration, la manifestation à laquelle assistent les apôtres n'a pas le même objet que celle de l'épiphanie. Elle est destinée à leur donner un rayon de lumière pour les préparer à passer, dans la foi, le cap du scandale de la croix. Nous revenons maintenant à l'épiphanie du dimanche 8 janvier, que la vulgarisation populaire profane, si je puis dire, a appelé la fête des rois. Cette fête, baignée de l'ambiance mystérieuse évoquée tout à l'heure, nous replonge dans l'allégresse et la douceur de Noël. Après la révélation faite aux bergers, des gens simples et pauvres. Dieu oriente son mouvement vers des personnages lointains dont on ne sait pas grand-chose en fin de compte, mis à part qu'ils sont vraisemblablement des hommes instruits, des savants peut-être, d'un rang social plus élevé en tout cas, que nos simples bergers, peut-être des astrologues, des chercheurs, que sais-je encore. Mais qu'importe. Retenons que l'on peut voir dans cette manifestation du Seigneur l'universalité du salut qui s'offre à l'humanité tout entière, sans aucune exception de race, de culture, d'origine, de conditions sociales ou autres, grâce à la venue parmi nous du Sauveur annoncé par les prophètes. L'important est aussi qu'ils se mettent en route, ceux que l'on appelle les rois mages, après qu'ils aient observé dans le ciel une étoile mystérieuse qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de voir. Ils entreprennent une longue route, une véritable aventure qui, nous raconte saint Matthieu dans l'évangile du jour, les conduit à Jérusalem, jusqu'au roi Hérode, lequel est soudain très soucieux et inquiet à propos de ce soi-disant roi des Juifs nouveau-né, qui surgit d'on ne sait où, que personne n'attendait de cette façon, et qui le dérange vraiment beaucoup. Cependant, les Saintes Écritures, en la personne du prophète Michée, annoncent la venue de ce roi. Je cite les paroles du prophète. « Et toi, Bethléem Ephrata, le moindre des clans de Juda, c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël. Ses origines remontent au temps jadis, aux origines antiques. » Les notes bibliques nous disent que Michée pense ici aux origines anciennes de la dynastie de David. Les évangélistes, par ailleurs, reconnaîtront en Bethléem Ephrata la désignation du lieu de naissance de Jésus. Et les voilà donc, nos rois mages, qui se sont mis en route, intrigués qu'ils étaient par cette mystérieuse étoile. Ils parviennent au lieu d'un événement tout simple et finalement banal, un nouveau-né, entouré de ses parents, sans apparat, sans spécificité apparente qui puisse justifier un tel signe dans le ciel. Et comme par extraordinaire, ils se mettent à genoux, en adoration, apparemment touchés par une mystérieuse révélation. Et les voilà qui couvrent cet enfant de cadeaux. Les pères de l'Église ont vu dans ses présents l'or, l'encens, la myrrhe, les symboles de la royauté, de la divinité et de la passion du Christ. Tandis que les notes bibliques nous révèlent que l'adoration des mages accomplit les oracles messianiques sur l'hommage des nations au roi d'Israël. Je citerai simplement, à ce sujet, deux versets du psaume 72. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les païens le serviront. Contemplons cette scène. Quelle question peut-elle éveiller en nous? Dans notre monde bouleversé d'aujourd'hui, où est-elle donc, cette étoile mystérieuse, lumineuse, captivante du regard? Où est-elle, notre étoile? Descendons dans notre cœur pour la trouver. Cachée au plus profond de nous-mêmes, invisible mais toujours présente, fidèle à tout jamais. Car la fidélité de Dieu est la plus belle et la plus séduisante manifestation de son amour et de sa miséricorde. Par notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu, qui nous a donné son esprit, source de notre foi, de notre espérance, et stimulateur de notre charité. Elle est bien là, notre étoile de lumière, au tréfonds de nous-mêmes. Elle ne demande qu'à nous éclairer, à nous guider, pour peu que nous voulions bien la regarder, ne pas masquer sa lumière et la laisser nous façonner encore et encore. Elle nous invite à nous mettre en route comme les mages, à devenir des itinérants en chemin, dans la foi et l'espérance en ce Dieu fou d'amour qui ne se lasse jamais de recommencer en nous l'ouvrage de ses mains. Notre séjour sur cette terre n'est-il pas essentiellement marqué par l'itinérance? Route pleine d'imprévus, de passages chaotiques et périlleux, de joies et de peines, parfois de désillusions et de découragements. Mais comme elle peut être riche et passionnante, cette route du mouvement à la rencontre de notre Dieu, au travers de toutes sortes d'événements que nous avons à vivre. Lui, le Seigneur, le premier des itinérants. Lui qui, par sa parole de vie et par sa grâce, vient sans cesse à notre rencontre, nous rechercher dans nos déserts, nous rechercher dans nos faiblesses, qu'il jette sans cesse loin derrière lui, nous rechercher dans nos vulnérabilités quotidiennes. Adorons-le, comme les mages, ce roi de gloire, petit enfant. Adorons-le, ce roi de gloire crucifié, les bras grands ouverts pour embrasser le monde qu'il est venu sauver. C'est par cette embrassade, en effet, témoignage dramatique et infiniment amoureux de sa miséricorde, qu'il répond au péché de non-amour de l'homme créé par lui pour aimer et pour le bonheur. C'est par son don total que Christ est devenu notre étoile, vers laquelle nous pouvons sans cesse élever notre regard, tourner notre cœur dans nos épreuves et nos joies, et marcher comme les mages de l'Épiphanie.
Merci beaucoup Jean-Marie, je rappelle que vous êtes laïc dominicain à Lille, à très bientôt pour une nouvelle émission au rythme de l'année liturgique. Au revoir.
À très bientôt et puis bonne année encore à vous et à tous nos auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup. Notre vie en Église au rythme de l'année liturgique. Une émission qui a été réalisée par Jean-Marie Dujardin et Armand Gall.